France Musique. Musicopolis. Laura Netzel entre Finlande et Suède. Les relations entre la Finlande et la Suède ont été très proches durant toute leur histoire. Logique, les deux pays sont voisins. Ils ont aujourd'hui une frontière commune. Auparavant, pendant longtemps, depuis le Moyen-Âge, la Finlande a fait partie de la Suède, jusqu'à ce qu'au début du XIXe siècle, l'Empire russe, qui la convoitait depuis longtemps, l'érige en grand-duché autonome. Quoi qu'il en soit, les populations finlandaises et suédoises restent très amies. Et c'est en Finlande que voit le jour Laura Netzel, notre compositrice d'aujourd'hui. Laura Netzel a toujours insisté pour qu'on ajoute à son nom la mention « née Pistolekors ». Pistolekors est le nom d'une très vieille famille de la noblesse finlandaise dont elle est restée extrêmement fière durant toute sa vie. À l'époque de la naissance de Laura, leur sixième enfant, les Pistolekors vivent dans une toute petite ville de l'intérieur de la Finlande, entre lacs et forêts. Mais la mère meurt peu de temps après, et le père se rapatrie avec ses enfants à Stockholm. Les possibilités d'éducation sont certainement bien plus complètes dans la capitale suédoise. Pour une jeune fille de la noblesse, Stockholm offre de nombreuses opportunités pour apprendre la musique. Sans envisager bien sûr une carrière professionnelle, ce qui ne serait pas convenable, il est toujours possible de s'adresser aux nombreux professeurs de la capitale. Le père de Laura Pistolekors s'étant remarié, sa belle-mère a vite remarqué les dons musicaux de la petite fille et elle a fait en sorte de les favoriser. On lui donne le meilleur professeur de piano de la ville et elle travaille sa voix avec un chanteur de l'opéra. En 1857, elle prend des leçons avec le virtuose autrichien Anton Dohr, de passage à Stockholm. La même année, elle se présente au public dans le troisième concerto de Moscheles avec l'orchestre royal de la cour. Le salon de la famille Pistolekors à Stockholm accueille de nombreuses soirées musicales. Grâce à cet environnement favorable, la jeune Laura va rencontrer de nombreuses personnalités de la musique suédoise, notamment Adolf Fredrik Lindblad, compositeur ami de Mendelssohn et fondateur d'une école de piano dans la capitale. Et puis c'est aussi chez elle que son amie la compositrice et organiste Elfrida André choisit de faire jouer son premier trio. C'est Laura qui tient la partie de piano ce jour-là. Laura Pistolet-Corse se fait souvent entendre chez elle, dans des concerts de charité, en concerto, en musique de chambre. En 1866, elle épouse Wilhelm Netzel, médecin gynécologue obstétricien, qui deviendra par la suite un professeur renommé pour ses nombreuses recherches sur l'amélioration des procédures médicales. C'est alors, bien sûr, qu'elle prend le nom de Laura Netzel, née Pistolet-Corse. Ils auront ensemble 4 enfants. Sa carrière d'interprète se ralentit beaucoup à ce moment-là et elle va dorénavant se tourner davantage vers la composition. La maison des Netzel est très accueillante pour les artistes. Dans le livre d'or où écrivent les invités, on peut lire les signatures de personnalités culturelles internationales. Christina Nilsson, la chanteuse suédoise, Vilma Neruda, violoniste morave, la compositrice et pianiste Teresa Carreño, Pauline Viardot, chanteuse et compositrice, sa fille, également compositrice, Louise Erit Viardot. Laura Netzel compose, et ses premières œuvres entendues en concert en 1874 sont 2 chœurs pour voix de femme. En raison de sa situation sociale, elle les a donnés sous un pseudonyme, Lago. Et le public se demande qui peut bien être ce Lago. Elle hésite beaucoup à prendre des cours de composition, par peur de perdre de sa spontanéité. Puis finalement, elle va trouver l'organiste et chef d'orchestre Wilhelm Heinze. Ses œuvres commencent à attirer l'attention. Oh! Dans les années 1880, à l'époque où Laura Netzel commence à prendre des leçons de composition, la musique suédoise est partagée entre deux influences. Celle de la musique germanique, de nombreux musiciens scandinaves font leurs études au conservatoire de Leipzig, et, dans une moindre mesure, celle de la musique française. Wilhelm Heinze, que Laura a choisi comme professeur, est plutôt tourné vers la France, ce qui la poussera plus tard à faire de nombreux voyages à Paris, où elle va étudier notamment avec Charles-Marie Vidor. On pourra reconnaître cette influence dans le fait qu'elle écrive pas mal de pièces pour instruments avant, alors que ses consoeurs et confrères se tournent uniquement vers les cordes. Laura Netzel passe beaucoup de temps à Paris, où elle se fait connaître et où elle rencontre énormément de musiciens. Elle a alors déjà la cinquantaine, mais elle parlera des années 1890 comme de ses années d'étudiante à Paris. Elle fréquente les salons et sa musique est bien reçue. Elle trouve que les compositrices sont mieux accueillies en France qu'en Suède. Laura Netzel a continué à publier ses œuvres sous le nom de Lago. Mais en 1891, son identité est dévoilée par un magazine féminin dans un grand article qui lui est consacré. Il est dit dans cet article que ses œuvres témoignent d'un sens de la forme inné et qu'elle applique à merveille les lois de l'harmonie et de la modulation. L'article note également que Laura Netzel est une pionnière parmi les compositrices suédoises et que, grâce à son inspiration et son savoir-faire, ses œuvres montrent clairement une force masculine. Thank you. La position sociale de Laura Netzel, épouse d'un professeur et descendante d'une grande famille noble, si elle ne lui permet pas de faire une carrière publique d'interprète, lui ouvre en revanche beaucoup de portes pour tout un pan de son activité qui est l'organisation de concerts. Pas question là non plus d'en faire un métier rémunérateur, mais elle peut se lancer dans toutes sortes d'œuvres de charité, comme le font les dames pieuses de la bonne société. C'est à merveille récolter des fonds en organisant des concerts, des kermesses ou d'autres genres de manifestations. Son nom reste attaché par exemple à deux musées de Stockholm dont les collections ethnographiques ont été réunies en partie grâce à elle. Mais la cause qui la touche le plus est celle des femmes. Elle se bat pour les femmes seules, les femmes enceintes, les infirmières, les sages-femmes, les domestiques, assurant des fonds de solidarité en cas de maladie, une école pour les handicapés, etc. etc. Parmi les nombreuses œuvres charitables de Laura Netzel, ce sont peut-être les concerts populaires qu'elle organisait pour les pauvres qui sont restés le plus dans la mémoire de ses concitoyens. Avec une grande exigence, elle a présenté des concerts hebdomadaires pendant très longtemps, dans lesquels elle faisait venir des musiciens confirmés, des virtuoses de passage et quelques jeunes prometteurs qui lui rendent bien en jouant ses œuvres une fois qu'ils sont devenus des stars. Ces concerts ont tellement de succès qu'on lui demandera d'organiser les mêmes à Paris. Thank you. Laura Netzel dit que la reconnaissance des femmes aura été le moteur de sa vie, ce qu'elle a mis en pratique dans tous les domaines. La manière dont s'écrit aujourd'hui l'histoire des compositrices suédoises lui doit beaucoup. Allegro appassionato, le mouvement final de la sonate pour violoncelle et piano, opus 66 de Laura Netzel, Ola Carlson au violoncelle et Lucia Negro au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches, Hortense Leblouc pour le site, Max James pour la réalisation et Claire Levasseur pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.